Bien, bonjour. Oui, alors effectivement, moi, dans le titre de cette rencontre, j'avais retenu surtout lecteur, hein, bande dessinée lecteur avec un point d'interrogation, puisque nous, notre mission à l'école, c'est de vous alimenter, vous, éditeurs, vous, de former des petits lecteurs, hein, des petits lecteurs qui deviendront éventuellement des consommateurs de bande dessinée. Sauf qu'on s'aperçoit que ce n'est pas toujours aussi simple, puisque bon, là je vous fais un rappel historique, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que bon, déjà beaucoup en ont parlé ce matin. L'idée c'était un petit peu de mettre en parallèle, on va dire, quatre périodes, hein, que j'assume totalement, de l'histoire de la bande dessinée, et un petit peu ce qui se passait chez nous à l'éducation nationale. Hein. Oui, comme je crois Jean-Philippe l'a dit, donc je suis à la fois, enfin, je suis issu du corps des instituteurs, directeur d'école, et en même temps j'interviens aussi à l'UFM de Tourfondette, enfin, pardon, l'ESPE maintenant de Tourfondette, au titre de la formation continue et formation initiale des futurs professeurs des écoles. Donc j'ai été amené à intervenir là-dessus quand, disons, le vent soufflait un petit peu plus fort. En parallèle un petit peu de ces quatre grandes périodes, hein, dont on va dresser assez vite le passage, hein, la période qui a été évoquée ce matin, l'âge d'or un peu des illustrés, la presse feuilleton, etc., enfin tout ce qui va couvrir un petit peu la période jusqu'à la fameuse loi de 1949, eh bien, chez nous, à l'éducation nationale, la bande dessinée, elle n'existe pas. Hein. Il faut bien dire que, du point de vue des éducateurs, il y a vraiment, des milieux éducatifs, il y a vraiment un rejet, voire même une ignorance complète de la bande dessinée, on pourrait même dire presque du mépris. Hein, il faut dire que si on se réfère aux instructions officielles, aux programmes, comme on dit aujourd'hui, eh bien, on parle d'introduction de textes littéraires de valeur morale et esthétique. Il n'est évidemment pas question de parler de bande dessinée là-dedans. Et ça va continuer comme ça jusqu'à un certain temps, y compris dans la période phare des années 50-60, notamment avec toute l'explosion pilote, la presse magazine, Tintin, etc. Et le fameux bouquin d'Antoine Roux, La bande dessinée peut-être éducative, qui finalement va un petit peu faire bouger les choses, mais va les faire bouger surtout au niveau, on va dire, de la recherche, au niveau universitaire. Mais dans les classes, il ne se passe encore pas grand-chose, parce que institutionnellement, la bande dessinée n'existe toujours pas. Si j'ose dire, elle est réservée un petit peu au jeudi, hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de classe le jeudi, et on allait acheter son Mickey, son Spirou, son Pilote le jeudi, mais il n'était absolument pas question d'apporter ça dans la classe, je peux vous dire, j'ai fait l'expérience. Bon, puis ensuite, eh bien, évidemment, dans la foulée un petit peu de la révolution culturelle de 68, les enseignants sont comme les bandes dessinées, ils vieillissent, ils se désagrègent petit à petit, ils sont remplacés souvent par une nouvelle génération. Et la nouvelle génération qui est arrivée après 68, 70 de jeunes instituteurs correspondait un petit peu à cette explosion un petit peu de la bande dessinée dans les années 70 avec le festival d'Angoulême et puis une diffusion de plus en plus massive. Et chez nous, à l'école, si j'ose dire, ça bougeait aussi. Hein. Il n'y a pas que dans la bande dessinée que ça bougeait, il n'y a pas qu'à Pilote que ça bougeait, mais ça bougeait aussi dans les classes, ça bougeait dans les programmes. Et c'est là aussi où on s'est mis à voir notamment l'enseignement de la lecture de façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on pouvait lire ailleurs que dans des manuels, qu'on pouvait aller lire des recettes de cuisine, des magazines, des choses comme ça. On a réformé aussi les fameuses méthodes de lecture. Je ne vais pas vous faire un cours sur la méthode globale, parce que je ne veux pas déclencher une polémique, mais bon, ça fait partie un petit peu du mouvement. Et puis surtout, l'introduction ou la prise en compte de la littérature jeunesse, qui dans ces années-là va faire aussi bouger les choses, y compris du point de vue de l'enseignement de la lecture. Et donc, dans la foulée, on va créer ce qu'on appelle chez nous des BCD, des bibliothèques, un CDI chez les collèges. Et dans ces fameuses bibliothèques, eh bien, il faut bien mettre quelque chose, il faut mettre des bouquins. Et c'est un petit peu comme ça que la bande dessinée va faire son entrée, si j'ose dire, de façon un peu insidieuse à l'école. Insidieuse, pas tout à fait, parce que, comme je vous le dis, il y a quand même des enseignants qui se rénovent, qui arrivent, qui sont eux-mêmes des anciens lecteurs de bande dessinée. En culotte courte, ils ont lu Tintin, Spirou. Donc c'est quand même une nouvelle génération qui arrive et qui va être quand même un peu plus à l'écoute de cette affaire-là. Mais institutionnellement, on n'a pas grand-chose. Il faudra quand même attendre 2002, je parle pour le primaire, parce que pour le collège, ça s'est fait un petit peu avant. Mais en 2002, où on va avoir la publication d'une liste de références d'ouvrages pour le cycle 3 notamment, qui, pour la première fois, voilà, qui pour la première fois va servir des documents, de ce qu'on appelle des documents d'accompagnement, dans laquelle on va trouver une liste de bandes dessinées. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ça, ça va être quand même ce qui va un petit peu déclencher de nouvelles pratiques, mais surtout déclencher pas mal d'interrogations, parce que c'est bien gentil de mettre de la bande dessinée dans les écoles, dans les classes, mais pour quoi faire ? Et là-dessus, il faut bien dire que nos collègues, moi y compris d'ailleurs, on s'est trouvé un petit peu démunis, parce que la bande dessinée pose tout un tas de problèmes d'un point de vue pédagogique, au moins pour la... C'est pas un livre, c'est pas l'image, c'est lu très vite, les enfants lisent ça en 5 minutes, et puis quoi. Alors, certains pionniers se sont lancés, certains éditeurs aussi, et dans ces années-là, donc jusqu'en 2000, la bande dessinée était victime un peu d'une double méprise, c'est-à-dire qu'à la fois... On a travaillé sur la politique un peu des morceaux choisis, hein, c'est-à-dire qu'on prélevait dans un album, bon là je pense que vous avez reconnu, 2-3 vignettes, et puis on demandait à des pauvres gamins qui nous avaient rien fait d'inventer un dialogue ou au mieux de reconstituer. S'il avait lu l'album chez lui, ben c'est simple, il connaissait par cœur, il pouvait remplir. Et alors ça, on a eu vraiment beaucoup d'exercices un petit peu comme ça. Les collègues étaient persuadés d'innover, et c'était normal, c'était un petit peu ce qu'on trouvait, surtout dans les manuels. Je dois dire aussi que ça correspondait aussi à une certaine pratique de la lecture dans les classes, des textes, des vrais textes, avec des vrais mots, comme disent les enfants, où on travaillait aussi à partir de morceaux choisis. Donc, quelque part, il y avait un peu une connivence, on travaillait sur des morceaux choisis en littérature classique, on faisait la même chose en bande dessinée. On n'y trouvait pas vraiment son compte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les années 70, là, il y a une explosion quand même. La bande dessinée devient un petit peu à la mode, elle est médiatisée. On parle d'Angoulême, les auteurs commencent à être connus. Donc cette génération-là va quand même être demandeuse un petit peu de produits estampillés BD. Et alors là, on va voir déferler un petit peu de tout, hein, c'est-à-dire des méthodes de lecture, par exemple, avec Boulet Bill, ou même une méthode de lecture où on crée carrément un personnage, c'est Benoît. Enfin, chacun, il va un petit peu de son produit un petit peu ciblé, avec des manuels vraiment estampillés BD, Hachette, Larousse qui propose... Alors là, c'est un extrait, en fin de compte, de ce que j'appelle, quand je suis en colère, le Tchernobyl de la bande dessinée pédagogique. C'est l'histoire de France en bande dessinée, hein, qui était... un produit extrêmement diffusé qu'on trouve encore dans les écoles, qui consistait en gros à reprendre une vision assez particulière, assez traditionnelle de l'histoire de France, de la mettre en bande dessinée. Et c'était assez amusant parce qu'à l'époque, il y avait un décalage avec le type d'enseignement de l'histoire qu'on préconisait dans les écoles. C'était la grande époque de les disciplines d'éveil. Peut-être que ça évoque quelque chose pour vous, d'aller sur le terrain, de tâtonner, de faire des enquêtes. Et là, on proposait un outil, enfin un objet qui était vraiment... qui reproduisait une vision extrêmement passéiste, extrêmement traditionnelle de l'histoire, même si les auteurs qui étaient sollicités pour ces albums étaient des... On a vu André Chéret, Victor de la Fuente, enfin bon, il y a vraiment des Forest aussi, je crois, à travailler là-dessus, enfin, des grosses pointures. Mais bon, là encore, c'était un peu une réponse commerciale à quelque chose qui était dans l'air du temps. Donc on arrive enfin à 2002 avec la publication de cette fameuse liste où là, on préconise un petit peu, du point de vue de l'enseignement de la littérature, la lecture d'œuvres complètes, hein, la lecture de livres de littérature jeunesse. Et donc effectivement, dans cette liste, on va trouver 13 albums de bandes dessinées qui sont recommandés. Alors il y a eu toute une polémique, s'agissait-il d'une liste officielle, etc. Je vous la laisse regarder, mais pensez bien qu'on est quand même en 2002 et qu'il y a quand même des choses très intéressantes pour des élèves qui ont entre 10 et 11 ans, voire un peu moins, puisqu'il s'agit du cycle 3. On trouve à la fois des choses, on va dire, traditionnelles, franco-belges, hein, Sortilège, Victor le Lutin, Toto l'Ornithorynque, et puis à côté de ça, on trouve quand même des choses comme Petit Vampire de Svart, on trouve Les Trois Chemins de Trondheim, ou encore plus étonnant, si j'ose dire, Edmond Baudouin, avec Pierrot. Donc je ne sais pas si tout ça vous parle, mais vraiment un panel d'œuvres vraiment très large, pas forcément facile. Et la question qui va se poser pour les enseignants et les formateurs, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça ? Alors bon, il y a plusieurs pistes qui vont être échafaudées. On va tripatouiller un peu cette liste, on va essayer de la mélanger dans tous les sens. On va par exemple essayer de travailler autour de thématiques, de réunir un petit peu ces albums. Il se trouve que la liste ouvrait de ce point de vue-là des pistes intéressantes, donc on va faire un peu des regroupements. Mais les gamins ont lu l'album en un quart d'heure et la question, c'est effectivement de quel type de pédagogie on peut appliquer. On va aussi voir arriver un peu plus tard des produits vraiment ciblés école primaire, c'est-à-dire des albums vraiment conçus pour faire découvrir la bande dessinée. Là, c'est un des derniers, Gaspard et Phylactère Magique, qui a été coproduit par le Festival de Blois l'an dernier. Mais déjà, ce type d'album était déjà dans les bacs auparavant. Le problème de la bande dessinée à l'école, c'est comment la lire et que faire. C'est quelque chose qui pose des problèmes, d'abord par rapport au statut de l'image. L'image à l'école a toujours eu, comment dire, un statut un petit peu particulier, une espèce de béquille pédagogique, c'est-à-dire qu'une aide à la lecture, enfin une image assez dévalorisée, si là-dessus on rajoute en plus qu'il n'y a pas vraiment de pédagogie de l'image, d'éducation aux médias. On en parle, mais souvent on a laissé un petit peu les collègues un petit peu démunis par rapport à ça. La bande dessinée est aussi un support qui supporte très mal la lecture orale, la lecture à voix haute. Lire une bande dessinée à voix haute, ça perd, on perd 90% pratiquement de la saveur. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de lire une BD à votre enfant avant de s'endormir, c'est extrêmement difficile. Et comme c'est des pratiques quand même qui sont très communes dans les classes, on ne voyait pas trop comment adapter cet outil, quoi en faire. Quelles compétences peuvent bien être mobilisées quand on lit de la bande dessinée ? Est-ce qu'on regarde que les images ? Est-ce qu'on ne lit que les bulles ? Bref, vraiment un sentiment un petit peu d'être démuni. Bon, ça c'est un petit peu l'aspect pessimiste, puis l'aspect positif qui va faire que la bande dessinée, enfin de mon point de vue, a toute sa place à l'école élémentaire, c'est que c'est quelque chose quand même d'extrêmement polyvalent. C'est à la fois du texte et de l'image. C'est extrêmement transversal. Souvent dans les collèges, le problème c'est un petit peu le jeu de la patate chaude, c'est-à-dire que le prof de français repasse au prof de dessin en disant « bah écoute, ça c'est du visuel », puis le prof d'art plastique repasse au prof de français et dit « mais non, ça c'est de l'histoire, c'est de la narration, débrouille-toi avec ça ». Et puis, à partir de jeux de ping-pong, on voit pas trop ce qu'on va faire de l'album. Il y a eu aussi toutes ces tentatives qu'on avait vues dans les années 70, où en dehors des morceaux choisis, on demandait aux enfants de produire une bande dessinée, d'en réaliser une. Et là aussi, c'était faire fi souvent des difficultés inhérentes à la production d'un scénario, d'un découpage, la mise en page, de « je ne sais pas dessiner un cheval »,« j'arrive pas à dessiner un vélo ». Bref, on partait souvent sur... On partait dans l'enthousiasme, on partait 500 et à l'arrivée, on n'était plus beaucoup. Et heureusement, on n'a pas 500 élèves dans nos classes, mais on en a 25 et même les 25 n'arrivaient pas. C'était aussi lié sans doute à une conception de la part même des enseignants de cette bande dessinée qui est facile, qui est issue d'une littérature enfantine. Donc, finalement, si les enfants aiment, si c'est facile, ça doit être à la portée de n'importe qui. Et puis non, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple, que c'est quelque chose d'exigeant, que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et si vous voulez, moi, enfin, pour m'y mettre cassé moi aussi les dents là-dessus, avoir fait faire de la bande dessinée aux élèves, c'est un peu comme si, quand on fait du chant, puisque les instits font tout, c'est comme si on leur demandait d'écrire un opéra. On leur dit, bah, écoutez, au lieu de chanter, on va faire un opéra. Et, bah, la bande dessinée, ça me fait un petit peu penser à ça. Bon. Alors quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors il se trouve aussi que la bande dessinée peut être aussi ses propres ressources et que... En travaillant avec des collègues, notamment Sylvie Dardaillon et Christophe Meunier, notamment, qu'on a déjà rencontré, et puis d'autres collègues, on s'est aperçu que une des solutions possibles, c'était peut-être justement dans la bande dessinée qu'il fallait la chercher. Et par exemple, je vais vous présenter là un type d'activité qui est issu d'un mouvement de l'histoire de la bande dessinée qui s'appelle l'Oubapo. L'Oubapo, c'est l'ouvreur de la bande dessinée potentielle. C'est un mouvement qui est très inspiré de l'Oulipo, ouvreur de la littérature potentielle, on retrouve parmi ces gens-là dans ce mouvement qui est né dans la fin des années 90 à peu près, autour de Thierry Gonstein, David Bay, Christophe Blain, Trondheim, rien que des gens bien. L'idée, c'est effectivement de se... Et Gilles Simon, pardon. Alors, je pourrais dire que mes... Et pourtant, je le savais. Et Gilles Simon, donc. Ces gens-là vont... Alors, on me corrigera. Vont essayer de pousser un petit peu le médium jusque dans ses retranchements. C'est-à-dire, l'idée, c'est un petit peu l'idée de la contrainte. Alors, je sais, ça peut paraître vieux schnock de dire on apprend bien que sous la contrainte, mais nous, à l'école, ça nous intéresse aussi. Ça peut être une idée fort intéressante. Et c'est un petit peu de ce côté-là qu'on va pouvoir trouver peut-être des démarches un petit peu novatrices, une façon non pas d'utiliser la bande dessinée aux dépens d'autre chose ou au service d'autre chose, comme je le montrais tout à l'heure, c'est-à-dire pour faire de la grammaire, pour faire de l'histoire, pour remplir des bulles, pour remettre les cases dans l'ordre, les images séquentielles, des choses comme ça, mais vraiment servir la bande dessinée et non pas la servir, en gros. Servir, ça va ? Non. Et donc, on va un petit peu s'inspirer de ça, notamment en se rendant compte, après s'être rendu compte que la bande dessinée est quelque chose qui se lit très vite, certes, mais qui se lit, qui se relit et qui se re-relit encore. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, pour travailler sur la bande dessinée, c'est pas grave si on connaît l'histoire. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on a laissé en cours de route. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vu. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas compris ou pas perçu. Et c'est un petit peu une révolution pédagogique, parce que bien souvent, quand on utilise un livre à l'école, on l'utilise un peu à la mode feuilleton, c'est-à-dire du début à la fin. Et la bande dessinée interdit un peu ce système-là, parce qu'évidemment, les 40 pages, elles sont très vite lues. Très vite, on est arrivé au moment où les Gaulois font le banquet. Bien sûr qu'on sait que Tintin est sauvé, bien sûr qu'on a vu Lucky Luke. Donc on croit connaître l'histoire. Et l'idée, ça va être de favoriser un certain nombre de plongées successives dans l'album, des allers-retours à partir de situations, problèmes, de questions. Tiens, au fait, puisque Tintin est en Chine, comment se fait-il qu'il se fait arrêter par des soldats anglais ? Ah ben zut, on n'y avait pas pensé. Et donc, on va retourner là-dedans. Ça, je vous dis, ça c'est du vécu, les faits avec les élèves. Bon, bref, tout un tas d'attitudes par rapport au livre, par rapport à la lecture, qui vont un peu trancher avec la méthode un petit peu traditionnelle, c'est-à-dire lecture, question de lecture, et on corrige. Évidemment, la bande dessinée ne peut pas s'adapter à ça. Donc, je vais vous présenter, par exemple, des exemples aussi de production tirées un petit peu de la philosophie de l'Oubapo. C'est par exemple des bandes dessinées sans images, ou inversement, des bandes dessinées sans texte. C'est un petit peu défricher tout ce secteur-là, sortir un petit peu d'une vision un petit peu traditionnelle de la bande dessinée, car très souvent, quand on interroge les élèves, même encore aujourd'hui, les élèves qui sont dans nos classes, qui sont nés en 2002, justement, en 2001, qu'est-ce que t'aimes comme bande dessinée ? Qu'est-ce que tu lis ? Tu lis les bandes dessinées ? Je lis les bandes dessinées de mon papa. Je lis Tintin, je lis Astérix, je lis Playbill. Nos jeunes élèves sont extrêmement conservateurs. Le phénomène manga a un petit peu perturbé ça, mais on reste encore vraiment dans des choses extrêmement classiques. Et le grand mérite de cette liste de 2002, c'était au moins d'ouvrir. Donc là, je parle. Bon, voilà d'autres exemples. Par exemple, une bande dessinée tirée de Trondheim qui s'appelle Mister O, qui est très adaptée à l'école primaire, puisque effectivement, là, on est dans un principe un peu d'exercice de style, c'est-à-dire une histoire sans texte, et puis le principe d'une contrainte, et on va décliner cette histoire à l'infini, du franchissement du rapport. Alors voilà l'exercice que je voulais vous montrer, qui est un exemple de pratique à l'école primaire, donc tiré directement du mouvement Bapo, c'est le principe de la réduction. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'on a lu un album avec les élèves, et puis on va demander aux élèves de le résumer avec les moyens de la bande dessinée, c'est-à-dire en leur demandant de sélectionner 8-9 vignettes maximum et de les mettre en page, de constituer donc le résumé de l'album. Donc là, c'est une production d'élèves qui a été faite à partir de Toto l'Ornithorynque, mais c'est applicable pratiquement à n'importe quel album. Alors pourquoi je vous présente ça cet après-midi ? Parce que ça me paraît un petit peu emblématique, si vous voulez, du type de démarche que, comme formateur ou comme directeur, j'ai essayé d'insuffler auprès de mes collègues en formation continue. Alors quel est l'intérêt de cette affaire-là ? D'abord, c'est un dispositif pédagogique original, puisque l'idée, c'est effectivement de travailler en commun. C'est-à-dire que la bande dessinée va devenir, ou l'album va devenir, un espèce de terrain de jeu, si vous voulez, à l'image de l'expression utilisée par Catherine Tauvron, la théoricienne de la littérature jeunesse. C'est-à-dire qu'on va s'accaparer, on va manipuler un petit peu le... Alors je vous rassure, on ne déchire pas les albums, on ne les découpe pas, là ça a été scanné, mais on va utiliser le principe de la photocopie ou du scan pour utiliser les vignettes. Ça va être un travail collectif, c'est-à-dire que la lecture n'est donc plus une affaire individuelle avec un questionnaire qu'on renvoie au maître pour avoir une note, mais ça va être une source d'échange, car évidemment pour choisir ces vignettes, il va falloir se mettre d'accord. Et même quand on a 10 ans, même quand on est en CM1, même quand le maître l'a dit, c'est pas facile de se mettre d'accord. Et à la limite, c'est pas intéressant d'ailleurs qu'on soit d'accord. Parce que, vu le nombre de vignettes qu'il y a dans un album, le choix va poser question. Et c'est justement ça qui est intéressant. Bon, la confrontation des points de vue, il va y avoir une mise en commun, et puis ensuite une restitution au groupe, puisque ce processus, il se décline sur 4-5 groupes d'élèves, hein, à peu près. Alors 4-5 groupes d'élèves, ça va nous donner à l'arrivée 4-5 productions différentes. Et ces productions différentes, on verra qu'au moment de l'analyse, ça va être intéressant, puisque tout le monde n'aura pas choisi les mêmes vignettes. Moi, j'y reviendrai. Donc c'est un exercice, un procédé pédagogique original. C'est aussi un exercice de littérature, hein, puisque à l'école, rien n'est gratuit. Enfin, presque rien. Puisque l'idée, là, c'est de travailler le résumé. Donc, on est bien en relation avec les programmes, et si l'inspecteur déboule, il va dire « qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» On va dire « on est en train de travailler l'esprit de synthèse, le résumé, retrouver une forme de narration, valider des choix, hein, par rapport au schéma narratif, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas prendre tout à fait les vignettes qu'on veut. Hein. Il y a des vignettes imparables, il y a des vignettes dont on peut se dispenser. Et puis la phase de présentation des travaux, là aussi, va constituer à restituer l'ensemble de l'album, hein, puisqu'il va falloir représenter aux petits copains la narration de l'album en s'appuyant sur les vignettes et en justifiant ses choix. Ça, c'est en gros pour la partie littérature. C'est évidemment un travail sur la bande dessinée, puisque là, on va se coltiner à, disons, un élément incontournable dans la BD, c'est la fameuse ellipse. C'est-à-dire qu'évidemment, entre la première et la deuxième case, eh bien, il se passe une quantité de choses. Et c'est donc les élèves qui, à l'oral, vont être chargés justement de combler ce fameux vide inter-iconique, comme dirait Grunstein, pour justifier et pour donner un petit peu de cohérence au récit qu'ils vont restituer à leurs camarades. Ça va être aussi les problèmes de mise en page. Le problème, quand on photocopie des vignettes, elles ne sont pas toutes de même taille, et l'idée, c'est effectivement de produire un affichage qui peut être lisible, qui peut être présentable. Donc il va falloir trouver un moyen que ceci ressemble à une planche de bande dessinée. Donc on va aussi être confronté à cette affaire-là. Et puis c'est évidemment tout le travail autour des personnages, et puis c'est aussi, notamment pour les plus grands, les raccrocher à une certaine petite tradition de la bande dessinée qu'ils ne connaissent la plupart du temps jamais, cette histoire d'Oubapo. C'est-à-dire, c'est aussi inscrire la bande dessinée dans une culture, dans quelque chose d'évolutif, que ça ne se limite pas à Boule et Bill ou aux pages week-end de... Il y a les journaux quand ils publient les bandes dessinées, il y a plus beaucoup. Enfin, les quotidiens, en principe, en été, publient pas mal de BD. C'est aussi évidemment un exercice de synthèse, hein, et de réinvestissement d'un certain nombre d'acquis qui auront été vus, puisque bien entendu ce type de séance intervient après 5-6 séances de lecture de l'album. Il est évident qu'on connaît l'histoire, on le sait. Hein. Un point aussi qui va être intéressant, c'est un travail d'analyse aussi du récit, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que dans un récit, tout n'est pas important. Là aussi, quand on est en CM1, CM2, ce n'est pas du tout évident. C'est-à-dire que la confrontation des différents résultats, des différentes planches, va faire apparaître que tout le monde n'a pas choisi la même vignette pour commencer. Tout le monde n'a pas choisi non plus la même pour terminer sa planche. Donc on touche là, par exemple, à des notions de prologue et d'épilogue. C'est-à-dire qu'effectivement, Johan et Convar ont... L'histoire, elle ne démarre peut-être pas à la première vignette, elle démarre un petit peu après. Il y a une espèce de mise en place, de situation du décor. Il y a des vignettes qu'on va retrouver dans différentes productions. Donc si toutes les vignettes sont utiles dans les bandes dessinées, elles n'ont pas toutes les mêmes importances. C'est aussi des choses qu'on va pointer avec les élèves, par exemple. Voilà, donc c'est à la fois tout ça, c'est à la fois un travail sur la littérature, sur la bande dessinée, c'est un travail d'expression, puisque encore une fois, l'idée c'est de présenter ce travail aux autres, hein, comme je disais tout à l'heure, de combler les vides entre les différentes vignettes, de justifier ses choix, et de s'assurer effectivement que la restitution tient la route, qu'elle correspond à peu près à l'esprit de l'histoire, hein. Et là aussi, ça renvoie à un certain nombre de compétences, donc on est amené à travailler à l'école élémentaire. Bon, c'est un exercice assez lourd, hein, parce que dans la mise en pratique, il faut une photocopieuse, il faut sélectionner les vignettes, il faut répartir les enfants en groupe, etc. Mais c'est quelque chose d'extrêmement riche et qui a le mérite, si vous voulez, d'utiliser le matériau bande dessinée, d'utiliser ces techniques pour vraiment apporter un certain nombre de savoirs. Donc c'est un type d'activité qui est fait. Il y en a d'autres, hein. Il y a ce que je vous ai montré tout à l'heure à propos de Tintin, par exemple, hein, c'est-à-dire tout ce qui est recadrage, hein, qui est directement issu aussi de Loubapo, c'est-à-dire qu'on prend une planche traditionnelle, et puis les élèves ont, pour les moins jeunes d'entre nous, des cages de diapositives ou une petite fenêtre, et puis ils vont s'amuser à reconstituer la planche, mais sous un autre point de vue. Donc là, on va travailler autour de l'image, du cadrage, etc. Et on va s'apercevoir que la planche n'a plus tout à fait le même sens. Voilà, bon, c'est bien, parfait. C'est bon. Donc voilà, un exercice de littérature, un exercice de bande dessinée, un exercice donc d'expression orale, écrite, et puis un outil d'évaluation aussi pour l'enseignant. Vous savez qu'on est beaucoup titillé là-dessus, nous dans le premier degré, il faut qu'on évalue, puis qu'éventuellement après on instruise. Enfin, c'est un peu l'impression qu'on a parfois. Mais là, en l'occurrence, ça s'y prête tout à fait, parce que comment vérifier effectivement qu'un élève a parfaitement compris une histoire, ben, c'est à travers, par exemple, ce type d'exercice, à la fois dans la composition qu'ils vont faire et aussi la manière dont ils vont le restituer à l'oral. Donc, encore une fois, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas qu'une histoire de « on va faire la bande dessinée pour passer le temps ». Bon, voilà une activité qui me paraît vraiment emblématique et qui, encore une fois, consistait surtout à vraiment utiliser la bande dessinée pour ce qu'elle est, à en faire un matériel. Il y en a d'autres, bon, voilà une production d'enfants, par exemple, qui a été fait, enfin l'autre aussi d'ailleurs, mais enfin une production plus récente à partir du roman de Renard, hein, adaptation chez Delcourt. Alors parfois, un certain nombre d'enseignants profitent de ça pour ensuite entrer carrément dans le résumé littéraire classique. Quelque chose aussi qui marche bien, et je crois qu'on y a fait allusion ce matin, c'est le roman photo. Alors, bon, c'est bizarre, d'habitude, tout le monde sourit, ou il y a une espèce de... Le roman, faire du roman photo, alors je vous rassure, il n'y a pas de partenariat entre nous deux et le ministère de l'Éducation nationale, mais on s'aperçoit que là aussi, alors c'est une technique en plus qui est intéressante parce qu'elle permet de pallier les problèmes liés à la réalisation qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que les enfants s'essoufflent, que c'est extrêmement difficile, qu'il ne suffit pas d'avoir un bon coup de crayon pour faire une histoire, et ça parfois c'est pas toujours simple à comprendre quand on a 10 ans. L'avantage aujourd'hui des nouvelles technologies, notamment numériques, etc., c'est qu'une histoire en roman photo, ça prend grosso modo une demi-journée de classe. Photo numérique, introduction dans un PowerPoint, ou Open Office ou que sais-je. Et l'idée, c'est évidemment que c'est un support idéal pour réinvestir et utiliser surtout les techniques de la bande dessinée, la bulle, l'ellipse, enfin j'en passe, et les meilleures mises en page, etc. Et ça fait partie là aussi des outils qui sont un petit peu aujourd'hui à notre disposition. Et puis alors le dernier point, et j'irai très vite là-dessus parce que ça c'est un travail beaucoup plus long, beaucoup plus lourd, c'est créer une parenthèse pédagogique avec une classe BD. La classe BD qu'on a expérimentée plusieurs fois en Indre-et-Loire notamment, à savoir partir en BD comme on part en classe de neige, c'est-à-dire pendant une semaine ne faire que ça. C'est-à-dire vivre un petit peu autour du médium et essayer d'en découvrir un petit peu toutes les facettes avec des mises à disposition d'albums, d'un panel d'albums, avec la venue éventuellement d'un auteur, avec des jeux de parcours à partir des couvertures par exemple. Ça fait partie aussi des supports intéressants à travailler à l'école primaire. En quoi la couverture résume-t-elle l'album? Et puis des petites mises en scène comme vous en voyez un petit peu là-dessous. Voilà, là c'est un petit peu le programme par exemple des thèmes ou des thématiques qui peuvent être traitées ou des différentes entrées que permettent une classe bande dessinée, c'est-à-dire pendant une semaine la classe est complètement déstructurée, c'est un peu une parenthèse quoi, et on va pouvoir comme ça aborder aussi bien le rôle des personnages par la constitution d'un certain nombre de support type carte d'identité. On va voir que la bande dessinée n'est pas un genre, ce qui est parfois un contresens encore utilisé par les enseignants. C'est vrai que l'inscription dans la liste littérature, de ce point de vue-là, introduisait un petit peu une confusion. La réduction en une planche, j'en ai parlé. Le traitement des temps, des lieux, etc. Par exemple, savoir combien de temps dure un album et partir à la recherche des indices. Et c'est toujours cette idée de lecture flexible, c'est-à-dire d'aller des allers et retours entre le support de lecture et ce qu'on appelle chez nous une situation problème, une question. Et dans ce cas-là, la lecture devient un jeu, et j'espère qu'à force d'avoir joué, ils deviendront lecteurs. Merci.
Merci.